Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de folie. Et puis, je vous le dis tout de suite, chers auditeurs, c'est l'événement sur RMC. Restez bien à l'écoute, 100 000 euros sont à gagner en écoutant RMC. C'est une première dans l'histoire de cette station, 100 000 euros. Évidemment, restez, écoutez-nous et vous saurez tout sur ce nouveau jeu. Au sommaire aujourd'hui, l'OM a sombré hier à domicile face à la JOCR. Est-ce une pire humiliation que face au PSG? C'est la une des GG dans quelques instants. 10h, c'est le grand retour du 15 de France 4 mois après la tournée noire en Amérique du Sud. Le 15 de France a-t-il le droit à l'erreur? Ce sera le bras de fer des GG. 10h30, c'est l'une des informations de la semaine. Kylian Mbappé écarté du rassemblement avec l'équipe de France. Est-ce une sanction ou une protection? Didier Deschamps sera dans la punchline. Et puis demain, le grand départ du 10e Vendée Globe de l'histoire, la plus prestigieuse course à la voile, tient-elle sur le sportif ou les dramas? Nous serons en direct des Sables d'Olonne avec nos envoyés spéciaux, des invités et notre consultant Franck Cabas. Vous l'aurez compris, une grande émission aujourd'hui. Les GG, je vous les présente car sans elles, cette émission ne serait rien. Une grande gueule qui, comme Fabien Galthié, on va en prendre au moins jusqu'en 2027. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Non, moi, je ne serais pas si sûr que ça pour 2027. Pour moi, évidemment, 2037 plutôt. Mais pour Fabien, je ne suis pas sûr 2027.
Il y a un doute.
Il y a un petit doute. Enfin, ça va dépendre.
Le principal, tu sais ce que c'est? C'est que tu restes dans cette émission, mon cher
voilà,
Christophe.
Mais de toute façon, je reviens. Vous avez vu, l'OM revient. Ouais. Kylian Mbappé revient. Mes sujets de prédilection. Il adore, dès que je suis là, il met de l'OM et du Kylian.
Mais ça, c'est mon côté sadique. Ouais, tu le sais. Dès qu'il n'y a pas Christophe, on ne parle pas de Kylian Mbappé. Dès qu'il est là, évidemment, nous en parlons. Une grande gueule qui, comme Fabien Galthié, il a toujours dit « Bernard, il est innocent ». Denis Charvet, salut Denis.
Oh, c'est minable. Mais oui, il est innocent.
De quoi, on ne sait pas, encore. Mais oui, mais
si,
bien sûr.
Un jour, il est innocent.
Bien sûr. Bravo Bernard.
Mais oui, bon.
Et on l'embrasse à Bernard. Et merci d'être là dans cette émission, Denis. Une grande gueule qui, contrairement à Fabien Galthié, il se balade jamais nu sur la plage. Bon, en même temps, à Limoges. Fred Weiss, salut Fred.
Salut. Alors, tu as tort, je me balade toujours nu.
C'est vrai?
Oui, mais...
T'as déjà fait ou pas du...
Non, jamais.
Pas à la plage.
Nudisme, naturisme,
tout ça. Justement.
Okay. D'ailleurs, il va pas sur la plage. Parce qu'il faut savoir que chez Fred, tout est proportionné. Hein. Ça fait peur aux enfants. Hein.
Franchement, 9h15, c'est beaucoup trop tôt pour moi, ce genre de vanne. Merci beaucoup, Fred, d'être avec nous.
Merci.
Et puis, c'est le grand retour. Une grande gueule qui, comme Fabien Galthié, il a gagné autant de Coupes du Monde. Philippe Saint-André, salut Philippe.
C'est vrai, salut à tous.
Quel plaisir de t'avoir dans le studio RMC. Là.
Oui, le rugby revient, je reviens.
Mais voilà. Oui, t'es bien avec nous comme
tout
ça.
Tout à fait. Et puis, j'attends vraiment surtout le grand sujet sur.
Kylian.
Non.
Sur quoi? Sur le 15 de France?
Eh oui, sur le 15 de France. Le coup de gueule de Christophe, quand même.
Ah bah oui, l'actrice de la soixantaine.
Voilà, la crise de la soixantaine. Souviens-toi, le dernier sujet que tu m'as invité, il ne voulait pas Antoine Dupont capitaine.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe?
Bah, Antoine Dupont est capitaine. Voilà.
Bon. Et là, je vous dis, Jalibert titulaire.
Et je vais te tirer sur le banc.
Et je vais te faire un plaquage cathédrale.
Alors là, ce serait vraiment désespérant de ta part parce que j'ai vu que tu étais d'accord avec moi dans le journal Midi Olympique.
Ouais. Mais je vais t'expliquer pourquoi.
Ah, d'accord. Ok. Juste te dire, Philippe, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais la semaine dernière, on était justement dans cette émission. Il y avait Denis Charvet. Puis à un moment. Denis Charvet a dérapé. Écoute ça.
Un message à faire passer à Philippe ou pas?
Non, rien du tout.
Très belle imitation.
Il m'imite très bien.
Non, je n'imite pas du
tout.
C'était une imitation.
Mais non, parce que en fait, ils m'ont branché parce que Philippe disait, Denis, il est comme les Français, il est bougon, c'est ça, si je me souviens bien. Et donc après, il me dit, tu as un message à faire passer à Philippe. Je dis, j'ai c'est imité, mais moi, je n'ai pas imité.
Voilà, mais c'était catastrophique, mais c'était un grand moment de radio et on voulait vous en faire profiter. Allez, on débute cette émission, car hier soir, c'était le dîner de cons.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
L'OM contre Auxerre.
Mais je m'en fous.
Le mieux, c'est de regarder le match, vous avez la télé.
Attention, l'erreur défensive des Marseillais, la reprise et le but. Le but auxerrois. Quelle boulette derrière.
Auxerre, on a mis un à mi-temps dans une minute.
Peut-être le 2-0, le horrible et peut-être le but. Le but auxerrois. 2-0, Gaëtan Perrin.
C'est pas perdu. Écoutez-le, le con, il se prend deux buts dans les cinq premières minutes et il dit que c'est pas perdu.
Toujours 2-0 pour Auxerre, le crochet, la frappe, 3-0, 3-0, 3-0, Traoré, qui régale, oh la folie, au Vélodrome, 1, 2, 3-0 pour les Auxerrois.
je veux bien appeler maintenant, mais si on est dans une phase de jeu, il risque d'être de mauvais poil et de m'envoyer sur les rouges. Je serai vous, j'attendrai la mi-temps.
On y va tout droit vers la bronca de la saison pour les joueurs marseillais qui sont menés 3-0 par la GIOZ. Ça devient presque habituel après le 3-0 et la claque subie contre le Paris Saint-Germain. Défaite 3-1 de l'OM contre la Gioncère.
Oh, allez l'OM, eh. Oh chiotte l'OM, oh chiotte l'OM, oh chiotte l'OM.
Ah, ça marchait.
Là, ça me fait plaisir. Là, je vous dis, il ne prend pas autant son pied que quand il entend ce genre de solution.
Ben non, mais forcément, alors, le dîner de courant.
Week-end.
Marseille-Auxerre, ça tombait parfaitement. Bravo, les gars. Et merci à la production et à Maxime Abolin pour cette merveilleuse, évidemment, bande-son. L'OM est toujours deuxième de Ligue 1 et pourtant, l'OM vient peut-être de basculer dans la crise. Les Marseillais, se sont inclinés hier à domicile face à la Gioncère. Vous l'avez entendu, défaite 3-1 pour la deuxième fois de suite au Vélodrome. L'OM a totalement sombré en première période. Pour la deuxième fois de suite, les hommes de De Zerbi sont rentrés au vestiaire sur le score de 3-0. Sauf qu'en face, c'était pas le Paris Saint-Germain. C'était la Gioncère, la musique qui fout les jetons. Et cette question, est-ce une pire humiliation que face au PSG? Oui ou non? Christophe Cessieux?
Non.
Fred Weiss?
Oui.
Philippe Saint-André?
Non.
Denis Charvet?
Non.
Avant de débattre, on va retrouver notre correspondant à Marseille, notre commentateur Florent Germain. Bonjour Florent.
Salut JC, salut à tous.
Alors Florent, celle-là, on l'avait pas forcément vu venir. Encore une soirée cauchemar au Vélodrome.
Oui, et cette fois, c'était pas le PSG, tu l'as dit. Et surtout, l'OM pourra pas se cacher derrière le carton rouge à la 20e minute qui avait peut-être alimenté aussi les discussions après Paris. Là, c'était clair, c'était net. Et c'était aussi 3-0 à la mi-temps. Une humiliation et un Vélodrome, on se le refait, qui a de nouveau rondé dans des standards encore plus puissants qu'il y a 15 jours contre Paris. C'était à la mi-temps. Ça a été la même à la fin et au coup de sifflet final, sauf que beaucoup de supporters avaient déjà quitté les travées du Vélodrome, un peu le même scénario que contre Paris. L'OM en grande souffrance à domicile, Marseille qui n'a pris que 5 points sur 15 possibles au Vélodrome, ce qui est totalement improbable et inconcevable aux yeux de Roberto De Zerbi. Dans le vestiaire, il a réuni les joueurs devant les dirigeants et on en a été très surpris. Il a déjà mis son poste dans la balance, comme il l'a confirmé juste après, écoutez, en conférence de presse.
J'ai dit à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria que si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. J'ai signé un contrat pour venir ici, mais si le problème c'est moi, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à laisser le contrat que j'ai et l'argent que je dois toucher.
Alors en interne, on promet que Roberto De Zerbi est l'homme de la situation, qu'il n'y a aucun débat, que ce sont les joueurs les responsables qui manquent de caractère, peut-être aussi de qualité. C'est un dossier qui est peut-être assez peu abordé. En tout cas, on décrypte cette situation par le fait que l'Italien est un passionné, qu'il vit sa mission souvent à fleur de peau, et surtout qu'il ne supporte pas l'idée de décevoir ce beau Vélodrome.
À non farsi domande, dubbi, andare.
Il ne faut pas se poser de questions, on doit y aller comme des kamikazes sur le terrain, avec le courage de jouer. Pourquoi ne jouons-nous pas? Si on se pose trop de questions, si on a trop de doutes, on aura du mal à jouer. Mais pourquoi est-ce qu'on y arrive à l'extérieur et pas au Vélodrome? C'est de ma faute et je deviens fou parce que je n'arrive pas à comprendre ça.
Voilà, je deviens fou. Je pense que le ton aussi de Roberto De Zerbi veut tout dire. Il était vraiment en furie hier soir, n'en a pas dormi de la nuit. L'OM est toujours deuxième, mais tu l'as dit, c'est inventer une petite crise dont Marseille a le secret.
Merci beaucoup Florent Germain, tu restes avec nous pour ce débat. Le 32-16, le hashtag RMC lève, l'application RMC Direct Studio. Est-ce une pire humiliation que celle face au PSG? Et puis on parlera de Zerbi et de ce qu'il a dit hier en conférence de presse dans un second temps. Christophe, pourquoi non? Pourquoi c'est pas pire?
Non, parce qu'il n'y a pas pire humiliation pour un club marseillais, pour les joueurs, leurs supporters, que de prendre une volée, une rouste, comme cela a été le cas il y a deux semaines au Vélodrome par le Paris Saint-Germain. On rappelle que le PSG, c'est l'ennemi héréditaire de Marseille. En plus, avant le début de ce match, ils pensaient vraiment qu'ils allaient pouvoir enfin les battre au Vélodrome et s'accrocher à leur roue pour tenter de jouer le titre. Donc ce jour-là, là, le lendemain, vraiment, je pense que Flo pourra me le confirmer, les regards étaient bas dans la rue à Marseille.
Tout le monde est tombé de haut.
Tout le monde est tombé très très haut, et moi aussi, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient pouvoir accrocher le PSG. Là, je pense qu'on assiste plus qu'à une humiliation, à une réplique en fait. Tu sais, quand il y a un tremblement de terre, il y a des répliques qui interviennent et qui sont presque aussi fortes que le tremblement de terre initial. Et là, à mon avis, c'est une réplique. Et il ne faudrait pas qu'il y en ait d'autres, parce qu'autrement, le vélodrome va finir par s'écrouler petit à petit. Déjà qu'il leur porte pas chance. Donc, c'est pas une humiliation du même niveau que celle du Paris Saint-Germain. En revanche, pour moi, c'est une défaite plus inquiétante, parce que quand tu perds contre le PSG 3-0 avec un expulsé dès les premières minutes, bon, tu trouves des circonstances atténuantes. Hier soir, il n'y avait pas de circonstances atténuantes, donc c'est une défaite inquiétante. Flo le disait, on est peut-être au début d'une crise pour l'Olympique de Marseille, et moi je ne vois plus du tout aujourd'hui le PSG en mesure d'inquiéter l'OM, en mesure d'inquiéter le PSG.
Ok, ça c'est fini, et ça, il n'y aura plus de débat. Oui, mais on en avait parlé quand même avant, et je pense que d'autres émissions l'ont fait, mais on a fait ce débat au début de la saison. Fred Weiss, pourquoi
c'est bien. Je suis ravi parce que Christophe me donne des arguments. Évidemment, perdre contre le PSG, contre Marseille, c'est un choc, c'est dramatique, etc.
Non, c'est une humiliation.
Alors oui, c'est... Non, je suis pas sûr que c'est une humiliation. Parce que
déjà été au stade de Londres, t'as déjà été dérangé dans ce stade.
Ma question, est-ce que quand le PSG joue contre l'OM, t'es sûr que l'OM va gagner? C'est une certitude. Tout le monde est certain, tout le monde signe directement.
Non, mais la façon,
sauf que, effectivement, comme l'a dit Christophe, il y a eu quand même un carton rouge à la 25e minute. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour les Marseillais? Tu peux un petit peu te cacher derrière ça en disant, OK, on a perdu contre le PSG, qui est censé être plus fort que nous, mais on a eu ce carton rouge qui nous permet de dire, si on n'avait pas eu le carton rouge, on aurait pu revenir dans le match, etc. Là, tu te retrouves à revenir au Vélodrome contre une équipe de promus. Alors oui, ils viennent de gagner 4-0 contre Rennes, mais c'est quand même une équipe de promus. Tu dois montrer à tes supporters que tu sais faire face, que tu peux rebondir après cet échec, parce que tu dois être le deuxième, le dauphin du PSG, et tu te retrouves à perdre. Pour moi, c'est une humiliation bien pire, parce que tu dois répondre présent à ce moment-là, tu n'es pas capable de le faire. C'est-à-dire que l'humiliation, elle est sportive, mais la preuve en est. De Zerbi, qu'est-ce qu'il fait? Juste après, est-ce qu'il le fait après le PSG? Non, il le fait juste après Auxerre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je remets mon poste en jeu.
C'est normal, Fred. Donc, ça veut dire, pour toi, tu préférais que Pau te mette 30 points plutôt que de te faire battre par Chalon, par exemple.
Très bon exemple, je vais te répondre. Admettons, contre Pau, on blesse deux joueurs dès le début. Tu perds, t'en prends 20, ok. La semaine suivante, tu rejoins la maison à Limoges contre un promu et tu repères de 20. Mais l'humiliation, elle est incroyable.
L'humiliation, c'est pas lié seulement au carton rouge. Je suis désolé. C'est un problème d'état d'esprit. C'est un problème de.
Et donc, tu penses que l'état d'esprit, il est meilleur quand tu perds contre un promu?
Il est catastrophique à Marseille, l'état d'esprit des joueurs.
C'est pire d'enchaîner contre un promu.
Oui, mais le carton rouge, il arrive. T'as envie de te dire, c'est normal qu'il arrive presque. Donc, et après, à 10 contre Rose. Mais non, mais à 10 contre Rose, il faut aucun effort. Il n'y a pas une rébellion. Il n'y a pas une. Je sais pas, moi, je suis consterné de voir la petitesse mentale de cette équipe. Et alors, quand on me parle de Zerbi qui dit « moi, je veux démissionner », mais va-t'en. Parce que le problème, pour moi, un des grands responsables de cette faillite, sincèrement, c'est lui. Pour moi, c'est lui. C'est un mec, on dit toujours un entraîneur soit être entraînant. Je suis toujours lui.
Un peu comme Lucien Riquet, non? Qui est le plus entraînant des deux
on va pas parler de Riquet parce qu'il ferait faire un autre débat.
On parle de Zerbi dans quelques instants. Mais déjà, sur la prestation des Marseillais hier versus aussi celle face au Paris Saint-Germain, où c'est vrai qu'on avait trouvé des circonstances atténuantes pour l'Olympique de Marseille, là, on a peut-être du mal à en trouver. Philippe Saint-André.
Humiliation, c'est contre le PSG, parce que voilà, l'ennemi héréditaire, c'est le PSG. Sur cette défaite, je pense plutôt que le Vélodrome, qui peut être un atout incroyable, actuellement est un vrai problème pour cette équipe. Et ce que Roberto De Zerbi, en tant qu'entraîneur, il prend la pression. Il couvre ses joueurs, parce qu'actuellement, je suis pas d'accord avec toi, Denis, cette équipe de Marseille, à l'extérieur, elle a du répondant.
On est contre les petites équipes.
Non, mais à l'extérieur, quand même.
Bah, Auxerre, c'est pas considéré comme une grande équipe.
Voilà. À l'OM, les mecs, ils sont effrayés. Ils sont effrayés de prendre des initiatives. Et je pense que ce public les bouffe. Et donc, il a un vrai problème d'état d'esprit. de leadership. Et donc, il y a un problème.
Oui, mais les joueurs, ces joueurs, à l'OM, ça va très bien ce qu'ils vont vivre au Vélodrome.
Denis, tu vois, ça arrive en tant qu'entraîneur, des fois, que tu as des mecs qui, à l'extérieur, sont libérés et à domicile, devant leur public, ils sont timorés, ils prennent pas d'initiative.
Ça t'est arrivé, ça, dans ta carrière, d'entraîner des joueurs comme ça?
Oui, ça m'est déjà arrivé. Et je comprends le message de Roberto De Zerbi, parce que je le trouve bien. Premièrement, il dit, si c'est moi le problème, je peux partir. Et en plus, il dit, je prendrai pas d'argent, rien du tout. Mais par contre, il veut réveiller ses joueurs, parce qu'il leur dit, il faut que ça soit des lions à domicile. Mais... alors qu'actuellement, c'est des lions à l'extérieur et des agneaux à domicile.
Mais ce qui est inquiétant, j'y sais, Philippe, par rapport à ça, c'est que le constat, il avait déjà été fait la saison passée, avec un certain manque de caractère à assumer la pression de ce club, de ce stade, etc. Ça dure depuis un moment. Mmh. Et donc, il y a eu cette révolution un peu de l'été et ses nombreux changements. Et on se rend compte qu'au final, il y a le même constat et les mêmes difficultés de l'OM au Vélodrome.
Et là, c'est une élimination, justement. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de réagir. Oui, quand tu es dans la difficulté, tu perds contre une très grosse équipe, c'est très grave. Bien sûr, dans le PSG, c'est très grave pour Marseille. Mais évidemment. Quand tu n'es pas capable de rebondir ensuite contre un promu, moi, je trouve ça cataclysmique.
Avec des joueurs comme Rabiot, quand même, qui ont une expérience internationale de 10 ans.
Et qui a du mal dans son entrée aussi, avec ce collectif cet olympique de.
Enfin, on a compris, j'y sais que c'était aussi quand même un coup de pression de sa part. Avant la trêve, faire réfléchir les joueurs, peut-être que ça servait un peu d'électrochoc. Moi, j'ai été surpris qu'il l'emploie tout de suite ces phrases-là, choc, parce que pour un projet de 3 ans, au bout de 10 journées, déjà aller si loin et mettre un peu son poste dans la balance, mais il faut l'interpréter plus
t'as gagné qu'un match à domicile.
Hein. Oui, mais t'es deuxième et tu peux pas non plus tout jeter. C'est pour ça que je dis ça. Donc, la forme a été quand même assez puissante hier, et je pense que c'est pour bouger ses troupes et qu'ils réfléchissent pendant la trêve internationale.
Eh bien, est-ce qu'il a eu raison de faire ça, Roberto De Zerbi? On en parle dans quelques instants dans les grandes gueules. Restez bien avec nous et on vous attend, supporters de l'OM, au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33 de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss et Philippe Saint-André, évidemment des rugbyman. Dans le studio RMC, nous allons parler du 15 de France à partir de 10h. Et puis dans quelques minutes, on s'en fout pas, la victoire de la Nouvelle-Zélande face à l'Irlande. Vous me direz évidemment si ça vous intéresse, mais j'ai mon idée sur la question. Restons un peu sur l'Olympique de Marseille. Est-ce une pire humiliation que celle face au Paris Saint-Germain? L'OM qui a perdu à domicile hier 3-1 face à la JOCR. Et donc, vous l'avez déjà entendu, mais je vous propose de le réécouter, surtout si vous venez de nous rejoindre. Roberto De Zerbi a dit ça hier en conférence de presse.
J'ai dit à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria que si le problème c'est moi, je suis prêt à partir. J'ai signé un contrat pour venir ici, mais si le problème c'est moi, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à laisser le contrat que j'ai et l'argent que je dois toucher.
Il met déjà son contrat dans la balance. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce qu'il a raison de faire ça?
Alors pour moi, c'est ce que disait Florent. Florent, pardon, qui est avec nous. Non,
je sais pas si... Oui, je suis là.
Moi, pour moi, c'est la com, c'est-à-dire que c'est juste avant la trêve. C'est d'envoyer un message aux joueurs. Mais après, je suis désolé, au bout de 10 journées, tu ne peux pas avoir un raisonnement comme ça, quand même. Moi, ça me choque. Ça me choque. Ça veut dire, un entraîneur qui arrive dans un club avec ses idées, ses convictions, sa stratégie, mais tu vas au bout du truc. Tu as 3 ans de contrat.
On dit au début de la saison, et Pablo Longoria l'a reconnu dans une interview dans l'équipe, en disant mais moi, on joue enfin la continuité.
Oui,
c'était ma responsabilité, c'était de ma faute.
Il a quand même les dirigeants avec lui, il a pas de risque. Et tout d'un coup, je sais pas, c'est comme si tout d'un coup, il y avait une espèce de crise qui démarrait. Enfin, tu me diras, c'est l'OM, c'est toujours comme ça, mais. Cette sortie, pour moi, elle est pas à faire. Elle est faite parce qu'il y a un calcul derrière, c'est évident. Mais sincèrement, ça me choque.
Est-ce que c'est un bon calcul de faire ça, Fred?
Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça va mal se passer, il va proposer sa démission. C'est un peu trop tôt. On est parti sur un projet à long terme. On sait qu'un projet à long terme, forcément, il y a des couacs. Il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a des moments où il faut se resserrer, ressouder. Qu'il ait un discours en disant mes joueurs sont pas bons, qu'il les agresse entre guillemets, verbalement.
Il peut même dire qu'il est pas bon lui.
Mais un moment que le mec déjà au bout de 10 matchs, aller voir sa direction en disant si c'est moi le problème, je m'en vais. Ben non, on signe pas 3 ans alors.
Alors on comprend le coup de com', mais est-ce que ça le fragilise, toi l'entraîneur, Philippe?
Non, ça le fragilise pas. Pourquoi? Parce que déjà, il est deuxième et il fait quand même un bon début de saison. en ne gagnant
ce soir, il sera pas deuxième.
Ouais, mais en ne gagnant pas au Vélodrome. Donc, je pense que là, il a voulu montrer d'abord qu'il avait des coronesses, même s'il n'était pas en danger. Et
c'est du bluff. Philippe, tout le monde sait que c'est du bluff.
Ouais, mais c'est surtout un message à ses joueurs de dire enlever le frein à main, arrêter d'être timoré à domicile, mouiller le maillot, engagez-vous.
Oui, mais ça, tu le fais dans le vestiaire, Philippe. Tu n'as pas à avoir un discours devant la presse.
Oui, mais lui.
Non, mais tu peux avoir un discours devant la presse, mais mettre sa crédibilité en jeu déjà aussi rapidement, Philippe, moi, je trouve que il se fragilise. Forcément.
Mais aussi pourquoi? Parce que il a entendu les sifflets au Vélodrome.
Donc,
oui, mais donc là, il montre aussi aux supporters. Moi, j'essaye de tout faire. Je mouille le maillot. Après, si jamais ça vous plaît pas, moi je pars.
Ouais,
mais
il se dédouane quoi.
Voilà, il se dédouane plus
c'est
ou moins.
Nul, en fait, comme...
Et il met aussi une pression à ses joueurs en disant les gars, c'est pas possible d'avoir deux visages comme ça. Un visage à l'extérieur qui est pas trop mal, et un visage à domicile qui est catastrophique.
Mais est-ce que tu crois que les joueurs entendent ce discours d'un entraîneur, de leur entraîneur qui le fait devant la presse? Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que les joueurs sont sensibles. S'il est dans un vestiaire comme ça, entre quatre yeux, mais tu dis des vérités. Ouais,
mais non, mais c'est de la com', surtout. Les joueurs, ils savent que c'est de la com'. Ils ne prennent pas au sérieux. Ils savent qu'au bout de 10 journées, t'as pas envie de partir. Tu sais que c'est pas ta faute. T'as envie de travailler. Donc, je trouve que le proposer aussi rapidement, c'est dire, j'ai pas trop de solutions. Je vais essayer de faire un électrochoc.
Ah, c'est étonnant.
Le coup. Ouais. Moi, je trouve ça super étonnant.
Christophe,
étonnant.
Il laisse quand même la porte ouverte à un certain flou. On sait que par le passé, l'OM a déjà vu des entraîneurs claquer la porte. Je pense notamment à Marcelo Bielsa, mais il y en a une autre dès le début. Et ce qui avait engendré beaucoup de difficultés. On s'est dit, là, c'est un projet à long terme. Et au bout de 10 journées, attendez, c'est moi le problème, je pars.
Aujourd'hui, tu sais bien que les entraîneurs, ils font, quand ça marche pas, ils font des carrières très très courtes. Et lui, j'ai l'impression qu'il se dit que ça va peut-être pas marcher. Donc il est en train d'ouvrir la porte. Et on verra
c'est fou quand même. C'est ce côté défaitiste un petit peu. Ou alors, ou c'est de la com, ou ça l'est pas. Mais si c'est pas de la com, alors c'est un côté quand même qui m'alerte.
Et les deux sont inquiétants, je suis d'accord.
Il y a une part de com, messieurs, parce que il a pas dans la tête de partir et il veut secouer ses troupes. Donc en ce sens, c'est de la com. Mais il l'a dit dans le vestiaire d'abord. Hein, c'est pas que de la com face aux médias. Mais après, il y a une réalité que je pensais pas à ce point. C'est qu'en fait, Roberto De Zerbi est un sanguin. C'est un passionné. Quand il nous parle football, des fois, ça se sent. Ben là, ça s'est senti. Il était à la fois KO, groggy, parce que il y a eu cette large défaite 15 jours après Paris, et puis cette frustration de pas y arriver au Vélodrome, comme il disait, alors qu'il est venu en grande partie pour ce stade, cette ambiance, cette passion. En fait, il est décontenancé par cette situation, et le fait d'être un sanguin l'amène à avoir ces déclarations un peu choc.
Oui, Flora, mais le problème, c'est qu'il explique pas la faillite de ses joueurs aussi.
Bah, à qui le dis-tu? Parce que l'une de mes questions, c'était, est-ce que vous n'avez pas vu l'OM trop beau en ce début de saison? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement un problème de qualité et que Marseille n'est pas en difficulté simplement. Parce que voilà, le fait de dire j'en assume la responsabilité, c'est aussi ne pas répondre à cette question parce que c'est souvent
la manière. Justement, ça.
La question essentielle,
c'est pas fragiliser, de pas dire l'équipe est pas suffisamment bonne. Je propose ma démission alors que justement il pourrait pointer du doigt certains manques, sans citer les joueurs, mais certains manques dans l'équipe et essayer d'avancer plus tôt. Non, Florent.
Mais il couvre ses joueurs. Il dit pas que ses joueurs sont mauvais.
Non, mais il explique.
Oui, oui. En tout cas, les joueurs ne fuient pas leurs responsabilités. Oui. Écoutez notamment Balerdi après la rencontre. Ça va arriver. Ça arrive
parce
de Marseille.
On ne mérite pas de porter cette maillot, non? Et avec l'histoire que c'est que dans cette club il y a, et on ne mérite pas ce soir avec les prestations qu'on a fait.
On ne mérite pas de porter ce maillot ce soir.
Ouais, mais ça, je comprends. C'est toujours la même réponse, je sais pas, moi.
Tout à fait d'accord.
Il faut arrêter avec ces...
À la mi-temps, Quentin Merlin, on est indigne. La saison dernière, c'était Jordan Veretout, qui tous les 15 jours avait cette dette-là. J'ai l'impression qu'il y a de belles phrases par rapport à on est à l'OM, on doit représenter le ci, le là. Et au final, les actes derrière ne suivent pas, surtout à Marseille. Les supporters, parce que on insiste beaucoup sur la bronca. C'est vrai que ça fait du bruit quand ça siffle 65 000 personnes, ouais, à Marseille il y a la pression, etc. Je vous garantis, et Christophe qui connaît ce Vélodrome, cette ville, peut en témoigner, parce que par le passé tu y es allé dans des contextes beaucoup, beaucoup plus chauds. Le Vélodrome est sage en ce moment. Il faut pas rester sur l'idée de ce qui s'est passé et qui est totalement condamnable de il y a 4-5 ans à la Commanderie, etc. Le Vélodrome, ça crie, il y a quelques banderoles de temps en temps,
mais
faut pas croire que le Vélodrome c'est invivable.
incroyable, que c'est étouffant, que les supporters mettent la pression, menacent, attendent les joueurs à la sortie des vestiaires. Ça, c'était avant. Le Vélodrome est ultra gentil. Donc si ces joueurs-là ont peur de ce contexte-là, qui est beaucoup plus positif que négatif, franchement, c'est inquiétant.
Oui, oui, d'autant que le comportement du Vélodrome pourrait changer si de tels scénarios se reproduisent dans les semaines qui viennent, Florent.
Ah oui, ça peut gronder.
Il peut aussi monter en température assez rapidement.
Et je vous fais pas de dessin. Après la trêve, il y a un déplacement à Lens, une réception de Monaco, parce qu'on parle des difficultés de l'OM à domicile. À part Paris, Marseille a joué des équipes comme Reims, Angers, Auxerre. Bon, il y a des gros clients qui vont arriver à la maison. Là. Donc,
exactement.
Ça peut chauffer.
Vous êtes nombreux supporters marseillais à nous appeler. Sachez qu'à 11h45, on pourra reparler de l'Olympique de Marseille. Il y a Karim là qui nous appelle. Bonjour Karim.
Bonjour l'équipe.
Bon, comment ça va Karim?
Salut.
Comment ça va là? Allô, ce matin?
Ça pique, hein. Ça pique les yeux, ça pique les fesses, ça pique tout ce que tu voudras bien, mais ça pique.
Ok.
Alors, c'est le 3-1, c'est pas l'humiliation. L'humiliation, c'est le 3-0 à la première mi-temps contre Paris et contre Clerc. L'humiliation, elle est là. On est qui, nous? On vient chez nous, on nous viole par deux mois du terme, on nous viole, on ferme nos bouches et en plus, on réagit pas. On marque sur un pénalty, limite. Vous avez vu le match de chèvre que j'ai vu hier? Que des mecs en train de brouter. Et c'est honte, ils me font honte. Les deux prochains matchs, je les boycotte. Je regarde ni contre Lens parce que je sais qu'on va se prendre une fessée. Et contre Monaco, c'est même pas la peine. S'ils se réveillent, on est foutu.
Et Karim, ce qu'a dit De Zerbi hier, là, t'en penses quoi?
J'en pense que c'est de la com. C'est pareil, les joueurs, ouais, Quentin Merlin, la mi-temps, joueur, on mérite pas, patati patata. Et c'est que de la com. Maintenant, il peut partir, il prend ses clics et ses claques, il se taille. Tant pis pour lui. Maintenant, t'es venu, tu signes genre toujours le même discours. On est là pour approcher 3 ans, patati patata. Au bout de 10 matchs, alors ça se passe pas bien pendant 2 matchs, tu veux partir. À Monaco, ils ont perdu pendant 2 matchs. Est-ce qu'ils ont fait du cinéma comme ça? Non, ils ont jamais fait de cinéma. Ils assument, ils ferment leur bouche, ils travaillent et voilà. Nous, l'OM, toujours plus. Ça y est, reste à ta place, parle à tes joueurs. Ça y est, c'est une crise, ça arrive à tout le monde. Mais l'OM, c'est toujours trop. Mais là, ce qui est trop, c'est pas le 3-1 d'hier, c'est le 3-0 de la première mi-temps contre Paris et le 3-0 à la première mi-temps contre Auxerre. Bon, là, c'est trop.
Il y aura le temps, en tout cas, évidemment, et cette trêve internationale va peut-être faire du bien aux joueurs de l'Olympique de Marseille. On reparlera de l'OM. Merci, Karim, d'avoir composé le 32-16, évidemment. Vous voulez interpeller une GG à 11h45 sur l'Olympique de Marseille, vous nous appelez, vous continuez de nous appeler au 32-16. Oui, Christophe?
Non, je vais dire une bêtise.
Non,
une petite balade dans le nord de l'Europe, ça a permis de se remettre les idées en place, je sais pas, ouais. une petite fiesta, je sais pas où.
Une troisième mi-temps. Ah, oui.
Voilà, une troisième mi-temps.
Ah bah justement, ouais. On va en parler, les copains, parce que l'illusion avec le 15 de France, les copains, parce que le 15 de France joue face au Japon ce soir. C'est le grand retour de nos bleus. On se retrouve dans quelques instants pour On s'en fout ou s'en fout pas, tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Philippe Saint-André, Denis Charvet, Christophe Cessieux, Fred Weiss. À partir de 10h, le 15 de France qui est de retour. Les Bleus ont-ils le droit à l'erreur avec leurs 3 matchs de cette tournée d'automne? On en parle dans quelques minutes. C'est l'événement. Restez bien à l'écoute sur RMC. 100 000 euros sont à gagner en écoutant votre station préférée. C'est la première fois dans notre histoire que ça arrive. 100 000 euros. Vraiment, restez bien à l'écoute, ça peut tomber à n'importe quel moment. Tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est la Nouvelle-Zélande qui bat hier soir l'Irlande. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas.
Fred Weiss.
On s'en fout pas, mais avec les rugbymen, j'ai pas beaucoup parlé.
Ok, tu passes donc.
C'est ça.
Tu passes, tu laisses la main.
On s'en fout pas.
Ouais, Denis.
On s'en fout pas.
J'imagine. C'était la revanche du quart de finale de la Coupe du Monde il y a un an et ça s'est passé de la même façon. Hier soir, donc, la Nouvelle-Zélande a frappé un grand coup, la même façon sur le résultat évidemment. Après leur succès décroché en Angleterre la semaine dernière, les All Blacks ont récidivé donc à Dublin face à l'Irlande. Victoire 23-13. Non, ça s'est pas passé tout à fait de la même façon.
Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile pour la Nouvelle-Zélande que ça l'avait été en quart de finale de la dernière Coupe du Monde où c'était imposé de 4 points. Ça avait été considéré comme le plus beau match de la dernière Coupe du Monde. Là, j'ai trouvé les Irlandais un peu en deçà de ce qu'ils ont montré, notamment notamment lors du dernier tournoi. Ils nous ont marché dessus, même à nous, les Français. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu moins forts, qu'ils sont en début de saison, ou est-ce que parce que les Blacks sont vraiment au-dessus? Je suis un peu inquiet pour la semaine prochaine, puisque nous aurons à affronter les All Blacks. Donc, on a intérêt à déjà bien se positionner.
On va affronter de grands All Blacks. C'est-à-dire qu'on avait la peur que ces Blacks arrivent en fin de tournée, fin de saison, un peu fatigués. Et bien, le constat froid, c'est qu'en fait, on va affronter des All Blacks en grande forme.
Donc, ce serait une performance exceptionnelle de les battre, sachant qu'ils viennent de battre l'Angleterre et l'Irlande.
Ça me semble plus compliqué après d'avoir vu ce match hier, parce que je pensais que les Irlandais allaient rivaliser. Et finalement, ils ont été pas balayés, mais ils ont été pris presque à leur propre jeu, j'ai envie de dire, Philippe, qui est un jeu de combat dans les rucks, partout, de défense.
Ouais, ce qui est surprenant avec les All Blacks, c'est que aux Four Nations cet été, ils ont été en grande difficulté. C'est la première fois où ils disaient on doit trouver une nouvelle génération et on va avoir un projet sur 2 ou 3 ans. Et là, moi, j'étais à Twickenham la semaine dernière. Ils ont été exceptionnels en Angleterre. Ouais. Ils gagnent l'Irlande et puis après, en plus avec des jeunes joueurs. Sititi, le numéro 6, qui est exceptionnel, on va le voir. Omua, le talonneur, entouré de mecs qui ont de l'expérience comme Mackenzie, l'ouvreur, qui était très bon. Et donc, c'est vrai que ce match, l'équipe de France contre les All Blacks, va être surprenant. Et surtout, les All Blacks, on pensait qu'ils allaient être en difficulté sur cette tournée au mois de novembre, et ils peuvent faire le grand chelem parce que le dernier match après, c'est en Italie.
Exactement, et donc ce sera samedi prochain au Stade de France, et vous y serez évidemment, ouais. Christophe Cessieux
et si on gagne, ça fera 3 victoires consécutives face aux Blacks.
C'est une
chose
première,
que seule la génération.
Ce qui est génial, c'est qu'il va y avoir un intérêt en grandissant. C'est-à-dire qu'on pensait que les Blacks, ils avaient perdu contre l'Irlande et en Angleterre, tu vois, ça aurait été. Là, ils arrivent pour un grand chelem, comme le dit Philippe, ça va être génial.
Alors, c'est d'autant plus une rencontre de prestige. Ok, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Hugo Humbert qui s'excuse après la polémique Khachanov la semaine dernière à Bercy. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas.
On y va. Je vous écoute.
Ok, il s'en fout donc. Hugo Humbert a fait son mea culpa cette semaine. Alors, petit rappel de l'histoire, le week-end dernier, lors de la demi-finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, remporté face à Karen Khachanov, le Français s'était montré très démonstratif à chaque point marqué, alors que son adversaire était diminué, il était blessé, et le Russe n'avait pas du tout apprécié.
Je lui ai dit de rester un peu calme et de faire preuve de respect. Ce n'est pas une façon de se comporter. Je suis toujours fair play, je le féliciterai s'il se comporte comme une personne normale. Il peut faire ce qu'il veut avec le public, je n'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que vous m'avez vu célébrer hier? Grigor était épuisé, il n'était pas blessé, il me l'a dit à la fin. Mais est-ce que vous m'avez vu sauter et crier « Come on, allez !» à chaque point? Vous pensez que c'est bien? Tu peux célébrer après le match avec le public, aucun souci. Tu peux faire ce que tu veux. Les blessures font partie du jeu. Mais faire ça quand l'autre est au sol. Ok, on verra la prochaine fois.
Et on en avait parlé la semaine dernière. Et sur ses réseaux sociaux, Hugo Humbert est revenu sur cet épisode. Voici ce qu'il a déclaré après l'intervention du kiné. J'ai perçu cela comme des crampes, étant moi-même à la limite d'en avoir après plus de 2h30 de match intense. J'ai perdu d'autres matchs cette année dans des circonstances similaires. Et cette fois, je suis resté concentré sur l'objectif. Je suis navré de voir que ça n'a pas été compris. Et pire encore, décrit comme un manque de fair play de ma part. Il assure avoir contacté personnellement son adversaire et avoir présenté ses excuses, Christophe.
Alors moi, je trouve que c'est pas du tout une aberration. On ne peut pas reprocher à un joueur bien d'aller présenter ses excuses lorsque son adversaire s'est senti justement pas insulté mais pas loin. On reproche assez souvent à d'autres joueurs tels que Corentin Moutet ou Benoît Paire leur comportement très limite sur les terrains, et en même temps dire ah ben Humbert s'excuse, c'est complètement nul. Non, il a eu raison de le faire. Maintenant, je pense qu'il n'était pas du tout obligé de le faire parce que moi j'ai rien trouvé de choquant dans son attitude. Il s'encourageait. Bon, effectivement, son adversaire avait l'air un peu blessé, mais on rappelle que c'était la première fois qu'il était en demi-finale de la Master 1000 à Paris, chez lui, devant son public. Il y avait un engouement terrible. Donc, moi, je trouvais qu'il n'y avait rien de répréhensible dans son geste. Mais comme c'est un garçon bien élevé, eh bien, il s'est excusé. Donc, tant mieux. Tant mieux.
Okay, c'est justement ce que je ne comprends pas. Hein. S'il n'y a rien de répréhensible, pourquoi tu vas t'excuser? Alors, honnêtement,
parce que tu es un mec en début de carrière, pas début de carrière, mais qui a encore besoin de s'affirmer.
Ouais, mais Christophe, il l'a expliqué.
Tu préfères Benoît Paire, toi. Tu préfères Benoît Paire.
Moi, je préfère les bad boys. Je trouve que
c'est les bad boys qui perdent souvent.
D'habitude, les bad boys qui perdent. Mais il n'y a pas que les Français. et je suis désolé, à un moment, il savait pas qu'il était blessé, il a cru que c'était des crampes. C'est pas grave, il y a rien de choquant. Il était en France, il avait envie de faire quelque chose, une performance. Il était en train d'avancer. Faut arrêter d'être fragile. C'est le sport et c'est le meilleur et c'est le plus fort qui gagne à la fin.
Ok, Philippe.
Moi, je trouve que c'est bien, c'est intelligent et respectueux. Voilà, point final.
Point final. Thèse, antithèse, synthèse. Il a réglé tout le monde. Merci, Philippe. C'est aussi pour ça que tu es dans cette émission. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner.
Dans les dents.
C'est le.
Fred, il en est resté bouche bée.
Parce qu'en fait, tu dis trois mots et ça suffit pour. Ouais. Ça m'a pas suffi pour me calmer.
Le nouveau contrat en or de Tadej Pogacar. Est-ce que ça vous intéresse, ça, toi, les sous-sous, Denis? Oui. Philippe, on y va?
Non.
Non, ça t'intéresse pas.
Moi, ça m'intéresse, mais j'imagine que Christophe, qui est au-dessus et qui est romantique, lui, ne va pas s'intéresser.
C'est que dalle.
Christophe, tu t'intéresses pas, ça va pas être au Pogacar. Mais non, tu t'aimes que ce qui est romantique, toi.
Ok, alors c'est du jamais vu dans l'histoire du vélo. Vous le savez, autour d'une saison stratosphérique, Tadej Pogacar a bouclé l'année par une autre bonne nouvelle. C'est donc la prolongation de son contrat chez UAE Emirates jusqu'en 2030 avec un contrat gigantesque à la clé. Alors, il faut savoir que le Slovène touchait jusqu'à présent 7 millions d'euros par saison, hors bonus. Eh bien, ce chiffre est passé à 8 millions. Cela veut dire qu'il a signé pour les 6 prochaines saisons. Donc, il va remporter au terme de ces 6 saisons, juste sur son contrat, 50 millions d'euros pour un cycliste. C'est phénoménal. Et il y a même une clause libératoire à 200 millions d'euros qui a été ajoutée à son contrat. Christophe.
Bah, écoute, c'est le signe que ce sport est en train de changer de dimension avec l'entrée en liste de sponsors énormes comme Red Bull, par exemple, ou alors comme des États, hein. On rappelle que l'équipe de Pogacar, c'est UAE, donc c'est les Émirats Arabes Unis qui ont des crédits sans fin et qui peuvent donc, pour espérer et pour essayer de gagner, de garder Pogacar, lui font un contrat sur 5 ans, donc 8 millions d'euros par an. Moi, ça me choque pas plus que ça. On rappelle que Pogacar, c'est la star numéro 1 de ce sport qui gagne des parts de marché tous les ans. C'est un garçon qui a tout gagné, qui va tout rafler encore dans les années à venir, à moins qu'il ne soit mangé par les petits cochons. Et il y en a partout dans le cyclisme, des petits cochons. Et puis, quand on est quand même très loin des revenus des stars, des grandes stars du sport business. Ronaldo, c'est 260 millions par an. C'est 21. Bah, attends, on compare des champions du même niveau. Sauf que, effectivement, ils ne jouent pas dans le même sport. Oui, mais moi, ça me choque pas que Pogacar gagne 8 millions, mais 21 fois le salaire pour Ronaldo, ça me choque un peu. LeBron James, c'est 128 millions. Mbappé, c'est 110 millions.
LeBron James, c'est 2 millions.
Je sais plus, je sais pas combien il est Dupont, mais il doit être
1 million.
Largement en dessous.
2 millions. Avec ses,
avec ses 8 millions, il fait presque figure de smicard parmi les milliardaires du sport, mais un smicard qui gagne quand même 16 fois plus que ce que touchaient Hino et Lehmann au milieu des années 80.
Et ouais, c'est du jamais vu dans le vélo, donc c'est pour ça que c'était important d'en parler dans cette émission. Alors c'est très important ce que je vais vous raconter maintenant, chers auditeurs. Vous rêvez de changer de voiture, de partir en vacances en famille, de faire le tour du monde.
RMC vous offre 100 000 euros.
C'est le grand moment de vous inscrire et de tenter de remporter 100 000 euros. C'est du jamais vu là aussi sur RMC. Envoyez dès maintenant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 9h57. Vous avez jusqu'à 10h07. Bonne chance à tous. 100 000 euros. Ça n'arrive pas toutes les semaines. À vous de jouer. Et ça peut vous aussi vous arriver. On se retrouve dans quelques instants pour le 15 de France et le bras de fer des GG.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.